89.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Wow.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. C'est si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut débarquer ton permis, ton vol, volémie et ton fichier. C'est tout ton vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends mis la chute dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est Camille l'info.
Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio plus ribelle.
Paniquez pas, niquez tout.
Attends, paniquez pas.
Niquez tout, niquez tout.
Paniquez pas, niquez tout.
Canu Info du vendredi.
Du vendredi, aujourd'hui c'est le Canu Info, on a le droit de dire des blagues. Alors comme on commence par dire des blagues, on va commencer par une blague dans le local en vous parlant de la vitrine de Radio Canu qui avait été brisée vendredi dernier.
On va parler ensuite d'un mec qui a été arrêté pour avoir montré de la compassion.
Et ensuite, on n'ira pas faire un tour au niveau de la grève des TCL, mais on parlera du 115 qui a été débordé encore une fois.
Puis on parlera des mineurs, des centres d'accueil et d'orientation qui se rebiffent.
Et dans la même veine, des exilés dublinés.
Puis dans le national, on parlera de Nantes et des manifestants et manifestantes qui ont été relaxés, ou presque.
On parlera ensuite du stockage des données en France, et ça c'est pas cool.
Et d'un centre d'hébergement fermé pour liquidation judiciaire.
Mince, mais pour autant, même si le centre d'hébergement ferme, Monsieur Valls a été enfariné.
Ensuite, dans l'international, on parlera de la Roumanie et du mariage pour tous.
Puis de l'Angleterre qui, face à l'austérité, se retrouve à voir augmenter la misère sociale.
Et enfin, ce sera les traditionnels brèves du Kurdistan.
Et un agenda rikiki, rikiki. Alors là, on attend patiemment le jingle local qui finalement...
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus...
Nous agissons avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable...
Vous voyez bien, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici
d'envisager la fermeture de ces... En bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les artistes. En chantant résiste.
Et oui, vendredi dernier, qu'est-ce qui s'est pas passé? La vitrine de Radio Canu a été tombé en éclats à 4h du matin. La vitrine a été complètement attaquée par quelques ou une personne, on ne sait pas, mais du coup la vitrine est tombée. Alors nous, ce qu'on a supposé, c'est que soit c'était quelqu'un qui jouait avec son marteau et qui l'a fait tomber malencontreusement sur la vitrine, soit c'était des gens qui se sont trompés et qui voulaient aller attaquer au contraire la vitrine du PS ou de la permanence des Républicains et qui ont cru que c'était là le PS. Donc pour la prochaine fois, je rappelle que la Fédération PS se trouve 65 cours de la Liberté à Lyon. Ah ouais, et que celle des Républicains se trouve 6 rue de Vauban à Lyon. Donc voilà, il faut pas se tromper. Donc ce n'est pas du tout un appel à aller attaquer la vitrine du PS ou des Républicains. Mais voilà, si jamais il y en a qui veulent re-attaquer, qui repassent devant la rue devant le Radio Canu, ce n'est pas ici que se trouve la Fédération PS ou celle des Républicains. Donc finalement, ces propos n'engageant que le Canu Info et devant être pris comme une blague. À la suite.
Attention, parce que les blagues à Radio Canu en ce moment, ça peut parfois coûter cher. Hein.
Mais il y en a une autre personne à qui ça a coûté cher. C'est deux personnes qui, jeudi après-midi, passent devant l'église Saint-Joseph dans le 6e arrondissement de Lyon. Et il y a un enterrement et du coup, ils souhaitent rentrer dans l'église pour un petit peu montrer de compassion aux proches de la personne disparue. Et il se trouve que, pas de bol, un des deux mecs est habillé en djellaba. Et donc, il s'assoit au fond de l'église. Et là, toutes les personnes qui étaient là commencent à flipper. Ils ont appelé là la police. La cérémonie est arrêtée. Ils font sortir tout le monde. Ils évacuent l'église. Et ils envoient des démineurs pour chercher s'il y avait une bombe. Et en fait, ben non, c'est juste un mec qui a 47 ans, qui s'était promené et qui voyait ça et qui du coup voulait témoigner un petit peu de compassion.
Alors, après, on va parler maintenant des sans-abri à Lyon, puisque du coup, c'est un article de Rue 89 qui nous dit qu'il y a déjà 2000 personnes qui sont sans hébergement à Lyon. Et il y a la fédération, la FNARS, qui regroupe plusieurs associations du social, du coup, qui, comme toutes les années, tire la sonnette d'alarme, puisque, en plus des personnes qui appellent le 115, il y a toutes les personnes qui ont cessé d'appeler le 115 parce qu'elles ont compris que c'était très difficile, même en ayant le 115, d'avoir une place, voire impossible. Et qu'à la maison de la veille sociale, qui regroupe toutes les demandes d'hébergement dans le Rhône, il y a au moins un an d'attente. Du coup, voilà. Cette année, le plan froid à Lyon, ça annonce 1200 places. Mais bon, ça, c'est les effets d'annonce. C'est un peu un chiffre symbolique, puisque, en fait, c'est que le chiffre maximal, si on débloque des places de gymnase qui pourraient être ouvertes en cas de grand froid, c'est-à-dire quand les températures sont à moins 5. Et pour le moment, il n'y a que 320 places, selon Rue 89, qui sont disponibles. Voilà, donc il y a toujours 2000 personnes qui appellent le 115. Et normalement, des structures devraient ouvrir petit à petit, progressivement, tout au long de l'hiver. Donc on se demande toujours à quand la fin de la logique saisonnière, parce que c'est quand même toute l'année que les gens ont besoin d'hébergement. Et Emmanuel Causse, la ministre de Logement, avait fait des effets d'annonce en disant que ça changerait, que maintenant c'était la fin de la politique du thermomètre. Et pour le moment, c'est encore le cas. On continue à avoir des plans froids. Donc la FNARS, la fédération, demande toujours des efforts à la fois pour toutes les personnes qui sont dehors, mais aussi les personnes qui sont dehors, mais qui sont aussi en hébergement précaire. Et dans un courrier au préfet qui est relayé dans un communiqué de presse, c'est ça, Emmanuel Causse demandait la mobilisation des préfets et l'hébergement inconditionnel, et pour le moment c'est pas du tout ça qu'on voit. Donc on sait aussi que là, début décembre, il y a le collectif Jamais Sans Toi sur Lyon qui se bouge, et il y a déjà 115 enfants scolarisés qui sont répertoriés pour être sans abri. Et maintenant, on va parler encore, mais ça va être
migration,
au niveau national.
Expulsion.
Centre de rétention.
Frontex.
Asile.
Réfugiés.
Racisme.
Clandestin.
Europe forteresse.
Répression.
Calais.
OQTF.
No border!
Et ouais, no border, no border, parce que qu'est-ce qui se passe dans les CAO? Eh bien, dans les CAO, il n'y a pas que...
Les centres d'accueil d'orientation.
Voilà, bien sûr, les personnes qui ont été expulsées de la jungle de Calais ont été toutes, plus ou moins, ça dépend du nombre, mises dans des CAO, donc dans des petits centres où ils sont censés être là sur le court terme, de façon à ce qu'on puisse étudier leur situation et essayer de voir les orienter sur une autre structure ou sur une demande d'asile. Et alors, bah donc dans ces CAO, il y a notamment pour les mineurs, il y a eu beaucoup de gros problèmes, du coup, pour savoir qui était mineur, qui était pas, ils faisaient des files, et puis après les gens, ils étaient parqués dans des pré-CAO, et puis ensuite finalement, ils étaient emmenés ailleurs, et puis après, il y avait des bus qui partaient, ça devait être que des mineurs, et puis à l'arrivée, c'était que des majeurs, enfin, on savait plus rien, c'était le bazar, un truc pas possible. La plupart du temps, les migrants et les migrantes mineurs, du coup, ce qu'ils font, eux, c'est plus qui se barrent en fait des CAO, c'est leur meilleure méthode de résistance face à ce qu'on leur fait vivre. Mais là, il y a deux exemples dans la semaine dernière de CAO où les jeunes se sont lancés dans une mobilisation collective. Donc on a d'abord à Batz-sur-Mer c'est une vingtaine de jeunes migrants qui ont fait une manif sur le devant devant le centre où ils étaient hébergés suite au refus de l'Angleterre d'accueillir de nouveaux mineurs. Et donc du coup ils se sont mis avec des petites pancartes sur le bord de la route et on a quand même appelé les gendarmes des fois que. Et il y a aussi les mineurs de Réalville dans le Tarn-et-Garonne qui s'étaient accueillis depuis la fermeture de Calais et qui protestaient en faisant une grève de la faim contre le refus en fait de l'Angleterre de les accueillir. Et surtout en fait eux ce qu'ils demandaient c'était une réponse motivée parce que l'Angleterre leur a juste dit bah écoutez ça va pas être possible, mais sans forcément leur dire pourquoi, comment et sans forcément dire sur quel document ils contestaient leur minorité ou leur accueil. D'autant plus que eux on leur avait prémis qu'ils attendraient au maximum 3 semaines avant de rejoindre Londres depuis la jungle de Calais. Donc c'est-à-dire qu'ils sont là depuis plus d'un mois. Et ensuite, il y a souvent des jeunes qui arrivent, des jeunes qui repartent. Il y a une partie des jeunes qui ont le droit d'y aller, une autre partie qui n'ont pas le droit d'y aller. Et du coup, ils ne comprennent pas du tout pourquoi. Et donc, c'est pour ça qu'ils se mettent en grève de la faim. C'est plus aussi pour avoir des vraies réponses et une vraie explication de ce qui se passe. Le sous-préfet est venu et leur a balancé quelques petites promesses qui a fait qu'ils se sont arrêtés leur grève de la faim. Et il leur a c'est-à-dire fait des propositions en fait, pour qu'ils puissent accepter de rester en France, sauf qu'eux ils disent bah ouais, t'es bien gentil ou t'es bien gentil, mais moi ma famille elle est en Angleterre. Et donc voilà pour les CAO et les jeunes migrants et migrantes qui se vénèrent un peu dans les CAO.
Et toujours en lien avec ça, en fait, il y a eu aussi un rassemblement à Toulouse par rapport au soutien pour les exilés qu'on appelle les exilés dublinés. Alors, je vais expliquer ce que c'est, parce que les exilés dublinés, c'est donc les exilés qui sont visés par l'application de la procédure qui est qu'ils sont passés par un autre pays d'Europe et du coup ils ont laissé leur empreinte par exemple en Allemagne ou en Italie beaucoup et donc ils doivent normalement commencer par faire leur demande d'asile dans le pays où ils ont laissé leurs empreintes, sauf que maintenant ils sont en France, donc du coup quand ils sont en France ils doivent attendre 6 mois s'ils sont arrivés de manière régulière sur le territoire français pour refaire une demande d'asile, ou alors ils doivent attendre 18 mois s'ils sont arrivés de manière irrégulière sur le territoire français. Mais pour les personnes qui étaient dans le campement de Calais, il y avait Cazeneuve qui avait promis que s'ils étaient accueillis dans les centres d'accueil et d'orientation, cette procédure Dublin n'aurait pas lieu. Donc ils n'auraient pas à attendre 6 mois ou 18 mois pour faire une demande d'asile. Or, pour le moment, voilà, ils doivent quand même être pris dans cette procédure-là. Donc ils attendent longtemps, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens dans les centres d'accueil et d'orientation qui sont dans cette situation. Donc là, à Toulouse, il y avait un appel de plusieurs ONG pour faire un rassemblement solidaire devant la préfecture de Toulouse par rapport à l'engagement de l'État de ne pas appliquer la convention dite Dublin. Il y avait la CIMAD, la Ligue des droits de l'homme, l'Association pour la défense des étrangers, des avocats pour la défense du droit étranger et le syndicat de la magistrature. Voilà. En plus, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a de plus en plus d'exilés qui ont laissé leurs empreintes en Italie et en Allemagne, qui arrivent en France dans l'espoir de déposer une demande d'asile. Maintenant, ça représente un tiers des réfugiés. Et du coup, ces réfugiés, maintenant, ils sont expulsables dans un autre pays européen, le pays européen où ils sont arrivés. Selon le règlement du Dublin, c'est ça, ils risquent d'être renvoyés d'où ils viennent. Donc, en attendant, il y a des préfectures qui les assignent à résidence de manière à assurer leur surveillance. Voilà, donc, c'était là dans la loi du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers que cette possibilité était donnée aux préfectures d'assigner à résidence les réfugiés dublinés. Et ça s'est passé relativement inaperçu, on n'en a pas tellement parlé lors des débats au Parlement il y a un an, et cette loi elle est applicable depuis novembre 2016. Donc ça a des effets dramatiques pour les personnes qui attendent de pouvoir faire leur demande d'asile, et encore plus pour les personnes qui ont peur d'être expulsées vers les pays européens où en fait elles voulaient juste passer et elles n'avaient pas du tout envie de s'installer, quoi. Voilà, donc en fait ce qui se passe, c'est que voilà, les demandeurs d'asile, quand ils arrivent, ils ont leurs empreintes digitales qui est entrée dans la base de données Eurodac, qui conserve et partage l'historique des traces des interpellations dans l'Union européenne à l'occasion du franchissement illégal d'une frontière ou d'un séjour irrégulier. Et c'est ça, dès que ils font une demande d'asile, et c'est regardé dans la base de données Eurodac de quel pays ils sont venus. Donc il y a des États comme la Hongrie ou dans la Bulgarie où ils sont encore plus clairement contre l'accueil des étrangers, les gouvernements, qu'en France. Donc les exilés se dépêchent d'en partir même s'ils sont enregistrés là-bas. Et ils arrivent dans des pays comme la France ou en Italie. Il y a beaucoup d'arrivées depuis la Libye et l'Égypte. Ça n'a jamais cessé. Depuis le début de l'année, il y a eu près de 180 000 arrivées. Et les contrôles sont de plus en plus systématiques, notamment dans les hotspots qui sont installés sur les côtes. Et c'est là où les migrants débarquent, surtout de la Corne de l'Afrique. Et voilà, après en général ils passent par Vintimille et Menton, ils arrivent en France. Voilà, du coup c'est comme ça qu'on appelle du coup les personnes, on dit les dublinés dans le travail social ou dans le travail juridique, parce que voilà, c'est les personnes qui ont leurs empreintes dans un autre pays. Et donc, c'est pas du tout toutes les préfectures qui font ce truc de les assigner à résidence, mais il y a quand même pas mal de cas. Donc avant, c'était juste les personnes qui étaient déboutées du droit d'asile qui pouvaient être assignées à résidence. Et maintenant, le nombre d'assignations à résidence a augmenté beaucoup. Il y a des associations de défense des droits des étrangers, par exemple le GISTI, qui s'inquiète de cette évolution qui fragilise les conditions de vie des réfugiés. Il y a aussi la CIMAD qui regrette que dans les centres d'accueil et d'orientation, les nouveaux venus ne sont pas finalement à l'abri, puisqu'il y a des décisions parfois de transfert à partir des CAO dans des villes comme Blois. Donc c'est surtout en Vendée, dans le Val d'Oise et dans le Loir-et-Cher que les préfets sont particulièrement disposés à appliquer cette nouvelle loi.
Ça veut dire quoi, des décisions de transfert ?
Eh bien, du coup, qui vont retransférer dans le pays où les personnes sont arrivées, elles ont laissé leurs empreintes. Alors, après, en matière d'hébergement, du coup, l'association La CIMAD redoute la mise en place de centres regroupant les personnes risquant d'être envoyées. Les représentants de l'État seraient favorables à l'ouverture de centres dédiés pour les uns aux déboutés, pour les autres aux dublinés, afin de faciliter leur assignation à résidence. Donc l'idée, c'est de faire comme des centres de rétention à ciel ouvert, enfin voilà, des centres de semi-liberté. Donc pour le moment, c'est très à la marge, mais en Moselle, ça commence petit à petit, mais c'est très peu, on en parle très peu, de ces centres où les gens sont assignés à résidence. Et après, pour convaincre les réfugiés installés dans la jungle de Calais de quitter les lieux, lors du démantèlement, c'est pour ça que Cazeneuve s'était engagé à ce qu'ils échappent à la procédure de Dublin. Et donc, en fait, c'était une erreur. Et il y a une instruction qui a été envoyée au préfet en octobre 2016 qui précise que les renvois ne peuvent être exécutés de force, mais que le reste de la procédure s'applique. Comme je disais, les gens doivent attendre en général 18 mois, ce qui engorge en plus les dispositifs d'hébergement. Donc pour le moment, les retours dans les pays d'arrivée en Union européenne sont de 5% pour le moment. Voilà. Enfin, c'est des sortes d'obligations de quitter le territoire, mais ça appelle des réadmissions. Voilà. Donc, pour le moment, c'est 5%, mais voilà, faut continuer à voir si ça n'évolue pas. Par contre, les assignations à résidence, c'est plus ça la politique de dissuader un peu les gens de rester en France. Voilà.
Pause musicale. Alors, vous voulez plutôt un truc un peu foufou ou un truc un peu vénère?
Bah, nous, au Canu Info du vendredi soir, on est vénère généralement quand même. Mais on est foufou aussi, alors.
De toute façon, les deux passeront, mais laquelle en premier?
Alors, on a envie d'être vénère d'abord.
Allez!
Der Putz von Pizza Bäcker Proktologen wollen lieber Popeln, Pöbeln, Prügeln, Bogen. Lehrer, Kellner, Gärtner, Banker, Broker, Richter sehnen sich nach Druckbetankung durch den Trichter. Seelenklempner, Fiebefuchter, Astronauten würden gern im Weltraum schunkeln, schwufen, saufen. Profikicker, Paparazzi, Taxifahrer. Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers. Tut mal lieber mal hin für mich. Trucker, Butler, Schlachter, Schaffner, Politessen. Wollen Gammeln, feiern, flirten, fummeln, fressen. Fettabsauger, Spargelstecher, Professoren. Träumen auf von FKK in Rockstar-Posen. Kopfgeldjäger, Reiseleiter, Gleisarbeiter. Schreien, rüsseln, rülpsen, rotzen, rammen, reiern. Orthopäden, Boygroup-Sänger, Zeitsoldaten. Vorverlegen, Kreuzworträtsel, Feierabend.
Arbeit, mehr Arbeit, mehr Arbeit, mehr Arbeit, mehr Arbeit, mehr Arbeit, mehr.
Früh aufstehen ist mehr was für dich.
Arbeit mehr, 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 Arbeit mehr,
da mal lieber mal hin für mich.
Canu Info.
Gendarmerie nationale! Arrêtez un peu les conneries là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et oui, au niveau national, on fait pas que perdre parce que qu'est-ce qui s'est passé le 21 décembre à Nantes? Eh bien, il y a eu le procès de 6 personnes qui avaient été arrêtées le 9 juin à Nantes. Alors le 9 juin, on se rappelle, mouvement contre la loi travail, des manifestations monstres dans tous les coins, et notamment à Nantes, les manifestations qui sont interdites à chaque fois par le préfet. Mais les gens manifestent quand même, et la manifestation du 9 juin est particulièrement vénère, mais à un moment le préfet décide que ça suffit, on s'arrête là et nasse une petite partie de la manifestation qui du coup va rester bloquée là pendant plusieurs heures et va du coup connaître le scénario habituel qu'on a pu voir, voilà quoi, les gens qui sont enfermés, gazage, grenades de désencerclement au milieu de tout ça. Les cinq personnes à la fin, les six personnes à la fin sont arrêtées et sont inculpées de non dispersion après sommation. C'est-à-dire que c'était pas mal quand même, quand on est tout enfermé dans un coin, il y a un mec qui dit dispersez-vous, sauf que de partout tu peux pas partir. Et donc du coup on leur reprochait le fait qu'ils pouvaient pas partir, donc on leur reprochait le fait qu'on leur avait reproché le fait d'être arrêté, quoi. C'était un peu le serpent qui se mordait la queue. Et le procès est apparemment assez drôle parce que les juges et la procureure comprenaient même pas du tout qu'est-ce qui se passait, comment, pourquoi les gens n'étaient pas partis, pourquoi ils s'étaient pas dispersés. Mais du coup, à la fin, quand même, les avocats et puis les personnes parviennent à prouver leur innocence, en tout cas, leur que c'est pas de leur faute s'ils se sont pas dispersés après sommation. Et mais quand même, la juge a réclamé 35 euros d'amende pour chacun et chacune pour une participation à une manifestation interdite. Donc on voit que des fois, on a quand même moyen de gagner face à la police ou face à la justice. Et si on parlait du stockage des données en France, parce que ça, c'est pas cool. On n'en parle pas tout de suite du stockage des données en France. Mais parlons du... Qu'est-ce que c'est que ce stockage? Alors, dis-moi tout.
En fait, parce que là, c'est une victoire grâce à la Cour de justice de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que impossible de stocker les infos sur les communications de toute une population, c'est trop grave pour notre droit à la vie privée. C'est la justice européenne qui l'a dit et c'est à nous désormais de forcer la France à obéir. Et cette fois, c'est pas un truc consultatif qui a dit ça, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui dit que les États n'ont pas le droit de forcer Orange, Bouygues, SFR et tous les voisins à conserver en vrac et par défaut les infos portant sur l'ensemble de nos communications téléphoniques et sur Internet. Parce que ces données sont susceptibles de permettre de tirer des conclusions très précises concernant la vie privée des personnes. Or, le respect de la vie privée et la protection des données personnelles sont des droits fondamentaux en Europe. Donc, tordre ces principes en stockant les infos entourant les échanges de toute une population doit être considéré comme particulièrement grave. Donc, les juges ont dit que ça pouvait générer dans l'esprit des personnes concernées un sentiment que leur vie privée faisait l'objet d'une surveillance constante. Cette décision, elle a été rendue le 21 décembre et elle est bien sûr contraire à bon nombre de pratiques qui sont aujourd'hui en cours dans nombreux États, dont la France. Et c'est pour ça que tous les membres de l'UE doivent s'y conformer. Voilà, alors en fait, on peut se dire que le combat contre le terrorisme ne justifie pas tout. Les États ont en effet tout intérêt à laisser cette décision pourrir aux oubliettes, puisque la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la Suède, toute la grande majorité a accentué ces dernières années sa scrutation des échanges sur les réseaux au nom le plus souvent de la lutte contre le terrorisme. Bien pratique par un moment ce petit terrorisme. Et les drames récents, ça n'a pas arrangé les choses en termes de liberté par rapport à ça et en termes de surveillance. Il y a eu effectivement la loi de programmation militaire, la loi renseignement en France, il y a eu aussi une loi en Grande-Bretagne un peu du même goût, et à chaque fois la surveillance des citoyens et citoyennes va un peu plus loin. Donc il y a des interrogations sur l'efficacité et la légalité de ces choix, mais elles ont toujours été rejetées et taxées par les responsables politiques d'irresponsabilité, de fantasme et de paranoïa. Voilà, donc cette fois-ci, la Cour de justice de l'UE donne une légitimité aux détracteurs de la surveillance à tout va. Et voilà, donc elle rappelle qu'il y a 5 conditions strictes normalement pour choper des métadonnées. C'est-à-dire que les métadonnées, c'est sur... les données, comment dire, c'est pas sur le contenu des communications, mais c'est bien sur des qui appelle qui, de quel appareil, à quelle heure, combien de temps et tout ça. C'est pas quelle pomme t'as mangé.
Ah, j'ai tout compris sur
le. Oui, ça porte pas sur le contenu, voilà.
Mais si on regarde le film Snowden au cinéma, on comprend tout.
Ah.
Et ça, c'est vraiment la classe américaine.
Alors, les autres conditions strictes pour choper les métadonnées, c'est que ces données ne doivent pas porter sur toute la population. Voilà, ce doit être des individus ciblés, nanana. Encore une donnée, c'est qu'une fois stockées, ces données ne doivent être consultées qu'aux seules fins de lutte contre la criminalité grave et pas pour des petits délits. Une fois stockées, ces données ne doivent être consultées qu'après contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante. Et enfin, le stockage de données ne peut être fait que sur le territoire de l'Union. Et qu'est-ce qui se passe en France ? Eh bien, tout l'inverse. On est à des années-lumière de ces exigences-là. Notamment, les opérateurs sont tenus de conserver pendant un an les informations qu'ils ont. S'ils refusent, ils risquent jusqu'à un an de prison et 75 000 euros d'amende, ce qui est finalement complètement illégal.
Et oui, si Valls allait plus au cinéma, on n'en serait pas là en fait.
Et en plus, en ce moment, en France, ces données, elles servent à peu près à tout. C'est-à-dire que normalement, elles doivent servir aux besoins de la recherche pour les poursuites des infractions pénales. Or, maintenant, cette consultation des données est passée du judiciaire à l'administratif, donc au clair, au service de renseignement, quoi. Et grâce au droit de communication... Ça, c'est une invention géniale qui permet à l'administration d'obtenir les infos qu'elle veut. Le fisc, les douanes, l'URSSAF, l'autorité des marchés financiers, la direction de la concurrence peuvent se faire communiquer ces infos pour progresser dans leur enquête ou prévenir la fraude. Voilà. Donc, le gouvernement actuel chérit tellement ce levier qu'il l'a également glissé dans sa loi sur l'immigration qui a été adoptée en mars. Pour les étrangers demandant un titre de séjour. Donc ça, c'est un peu magique, et effectivement, ce droit de communication, puisque, juste pour rappel, dans la loi de l'immigration de mars 2016, là, il lève en fait le secret professionnel, et donc n'importe quelle institution, que ce soit les banques, les écoles, les EDF, et tout ça, enfin, toutes sortes d'institutions, se doit de donner des informations sur les personnes étrangères si on lui demande. Sous peine de je sais plus combien, mais c'est aussi une énorme amende si on garde le secret professionnel. Je crois que c'est aussi les centres d'hébergement et tout ça. Voilà, le droit de la communication, il est aussi dans la loi sur le dialogue social et l'emploi pour fliquer les faits et gestes des chômeurs avant de les retirer in extremis.
Hein ? Ah ouais, quand même, ça, ils ont vu aller loin, quoi.
Eh bien, c'est tout sur ça, mais tout ça pour dire que maintenant, la Cour européenne est du côté du droit, donc faisons appliquer le droit parfois, quand ça nous arrange.
Bien joué, mais alors la Cour européenne, c'est pas à Strasbourg, ça va peut-être faire un petit peu loin pour aller faire appliquer le droit.
On écoute une chanson ?
Ben ouais.
Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. On vient d'écouter My Imaginary Loves, un groupe toulousain qui a chanté The Anxieties of Big Data. Donc c'est un groupe de meufs que j'ai vu à la boulangerie du Prado, rue Sébastien Griffe. C'était trop bien. Et vraiment, je fais leur pub, j'en profite.
Et oui, alors, dans le Canu Info du vendredi soir, on continue à parler d'une ville hantée, c'est pas Toulouse, c'est Tours. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à Tours ce soir? Ça, c'est pas très drôle par contre. Il y a un foyer d'hébergement d'urgence qui s'appelle Albert Thomas, qui va devoir fermer ses portes dès ce soir. Pourquoi il ferme ses portes? C'est pas la fin du plan froid, c'est pas la remise à la rue des familles, c'est pas parce que les familles vont dans un logement plus chouette, C'est tout simplement parce que l'association qui gérait le foyer est en liquidation judiciaire. Donc ça fait depuis 2 ans que les salariés du foyer alertent à plusieurs reprises la DDCS. Donc la DDCS est la direction départementale de la cohésion sociale et c'est eux qui financent le foyer d'hébergement. Depuis 2 ans, du coup, ils alertent sur le fait qu'il n'y a pas de... Ils étaient en galère au niveau de la gestion financière du lieu, qu'il y avait des mois où ils n'avaient plus assez pour pouvoir fournir des couvertures, de la nourriture aux personnes hébergées. Et tout est si bien qu'au bout d'un moment, ils ont appris, donc le 21 décembre, c'est-à-dire mercredi, que le centre d'hébergement allait fermer, que tous les salariés allaient être licenciés et que toutes les personnes qui étaient hébergées allaient devoir partir du centre. Donc c'est-à-dire qu'on leur a expliqué le mercredi soir qu'ils allaient devoir partir le vendredi soir, soit ce soir. Et les personnes ont été relogées provisoirement dans un gymnase de la ville, alors même que le centre d'hébergement, du coup, est toujours ouvert, toujours chauffé, toujours avec de la lumière et toujours complètement fonctionnel. Mais comme l'association, les directeurs de l'association ont fait n'importe nawak avec les thunes de leur assos, on remet les gens à la rue et les salariés à la porte. Mais à côté de ça, qu'est-ce qui se passe le 15 décembre? Le 15 décembre, il y a Manuel Valls qui dit qu'il veut, si jamais on l'élit président, retirer le 49-3. Alors ça, tout le monde se dit qu'un petit peu, il se fout de notre gueule finalement, mais bon, voilà. Et il y a un mec que ça a vachement vénère, tellement que hier, alors que Manuel Valls est en visite à Strasbourg, il y a un type d'une trentaine d'années qui s'est jeté sur Manuel Valls en lui balançant un gros sac de farine sur la gueule, en criant 49-3, on n'oublie pas, on pardonne pas. On peut que espérer que les vendeurs de farine se retrouvent en rupture de stock et que Manuel Valls se retrouve en rupture de stock de costard. En tout cas, si jamais il y en a d'autres sur lesquels on pourrait balancer de la farine.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
Et voilà, dans la rubrique internationale, on parle de l'Angleterre et de l'austérité.
Et puis, en fait, je me suis inspirée un petit peu d'un article de Mediapart qui explique en fait la hausse de la misère alimentaire en Angleterre. Ça explique que le nombre de jours d'hospitalisation pour malnutrition a doublé en 10 ans. Et derrière ces cas extrêmes se cache une montée en flèche de la pauvreté alimentaire. Donc ça, c'est un peu les conséquences de la politique menée depuis 2010 qui est largement responsable de cette précarité extrême.
Ah, tu veux dire qu'il les a roulés dans la farine?
Ouais. Et là encore, s'ils étaient allés au cinéma voir le dernier film de Ken Loach, ils n'en seraient pas là. Parce que Daniel Black explique bien cette misère sociale.
Il faut aller au cinéma. Il faut que les hommes politiques, en fait, aient du temps dans leur agenda pour aller au cinéma et tout irait mieux, en fait. Voilà, nous avons trouvé la solution ce soir à Canu Info.
Non mais Daniel Black, ça montre bien effectivement toute la misère sociale et vraiment ce truc qui manque même d'associations caritatives et les gens ils ont même vraiment faim à cause des politiques d'austérité, du capitalisme et tout ça. Et donc dans cet article de Mediapart, il parle des breakfast clubs qui sont mis en place dans des écoles primaires, qui sont pour proposer un petit déjeuner aux enfants issus des familles les plus défavorisées, mais finalement de pas mal de familles du quartier, qui sont encouragées à prendre leur premier repas de la journée dans l'établissement, parce que sinon il y en a plein qui viennent le ventre vide. Et le nombre de participants au club du petit déjeuner a augmenté beaucoup au fil des années, parce qu'il y a beaucoup de parents d'élèves qui gagnent un salaire très faible et qui ont de plus en plus de mal à s'en sortir. Et du coup, c'est en l'espace de 5 ans, le nombre de travailleurs pauvres a augmenté d'1 million. Et il y a 7,4 millions de Britanniques qui vivent désormais dans la pauvreté, alors qu'un membre de leur foyer au moins a une activité salariée. Voilà, mais bon, c'est leur loyer qui augmente, leur facture d'électricité et de gaz également. Et du coup, pour essayer de compenser, elles réduisent au maximum leur budget alimentaire. Du coup, voilà, les placards sont vides et il n'y a pas exactement l'équivalent du restaurant des Restos du Cœur en France. Donc il y a quelques associations caritatives quand même, mais qui ne reçoivent aucune subvention publique. Voilà, donc les associations, elles essayent de répondre de plus en plus aux besoins, mais voilà, les enseignants leur signalent de plus en plus des enfants qui ont faim et du coup qui n'arrivent pas à se concentrer à l'école. Voilà. Voilà. ça, c'est une conséquence de la politique depuis plusieurs années. Le conservateur David Cameron, lui, était au pouvoir depuis 3 ans et les banques sauvées de la faillite par les contribuables continuent de distribuer des millions de livres de bonus. Mais ce sont les bénéficiaires d'allocations sociales, c'est les prétendus profiteurs selon les autorités et une partie de la presse qui sont considérés comme les ennemis de la prospérité. Voilà, donc en novembre 2013, le ministère des Affaires sociales annonce triomphant qu'en un an, il y a 580 000 sanctions qui ont été distribuées à des demandeurs d'emploi peu zélés. Donc ils disent, nous sommes en train de mettre un terme à la culture de l'assistanat. Merci l'assistanat, quoi. Enfin, du coup, si eux, c'est des assistés, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, à la base, je voulais faire des ponts comme ça pour montrer que ça allait être terrible en France, parce que petit à petit, on glissait vers un modèle à l'anglo-saxonne avec l'arrivée des Social Impact Bonds. Mais ce n'est pas grave, je vous en dirai plus vendredi prochain. Ça fait un petit teasing comme ça.
Et puis peut-être d'ici là, vous pouvez toujours aller sur nébuleuse.info pour avoir toutes les informations sur les Social Impact Bonds.
Parce qu'ils vont bientôt être publiés, ah, oui, ouais. C'est des articles déjà qui parlent de ça sur ce site qui regroupe toutes les alternatives et les initiatives dans le travail social et la santé.
Et ben c'est parti pour les brèves du Kurdistan alors.
De chaque côté des frontières qui séparent le Kurdistan, les luttes continuent. Voici donc quelques exemples de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Pour commencer, au Rojelat, l'État iranien continue la répression. Les Kurdes célébraient hier, le 20 décembre, la fête de la nuit de Yalda, la plus longue de l'année. C'est au cours de la fête qu'a retenti une double déflagration dans le camp de l'une des branches d'un parti d'opposition kurde iranien, le PDK. Pour ce parti, la fête de Yalda recouvre une double signification, puisqu'ils y célèbrent aussi l'anniversaire du leader historique du parti, le docteur Abdulrahman Kassemlo, assassiné à Vienne en 1988. 7 morts, dont la plupart sont des peshmerga du PDK, c'est-à-dire des combattants kurdes, et plusieurs blessés sont à déplorer. L'acte n'a pas été revendiqué, mais tous les regards sont tournés vers le gouvernement iranien, qui multiplie ce genre d'attaques contre les résistants kurdes afin d'instaurer un état de terreur. Depuis les années 40, les Kurdes d'Iran se sont organisés en partis et luttent par la guérilla, le militantisme clandestin et l'information contre le gouvernement du Shah, puis contre la République islamique d'Iran. Au début des années 2000, la guérilla avait été suspendue au profit d'autres tactiques de lutte. Les deux principaux partis historiques, le PDKI et le Komala, ont pris la décision en mars dernier de reprendre la guérilla, notamment en attaquant des bases militaires et en reprenant une présence dans les montagnes, les villes et les villages, où les peshmergas sont accueillis par les habitants. Ainsi, la lutte prend aussi la forme de marques de présence dans l'espace public. Les images des peshmergas circulant dans les villages et dans les villes ont mis le gouvernement dans une colère noire. Les habitants se saisissent aussi de l'espace, multipliant les graffitis ou en publiant des photos. En effet, de nombreux écrits appelant à la liberté au Kurdistan fleurissent sur les murs. Certaines personnes osent des slogans dans les groupes et les jours de fête. D'autres se prennent en photo avec des symboles politiques kurdes dans les lieux connus, dans les universités, dans les écoles. Les musiciens et les poètes composent et font circuler leur musique et leurs poèmes. Bien sûr, ces actes ne vont pas sans répression. Le mois dernier, un jeune homme de 17 ans a été torturé et tué par la police lors de son arrestation pour un tatouage à l'effigie du docteur Kassam. Mais la continuité, la récurrence et l'augmentation de ces actes viennent signifier la détermination de la population à ne plus vouloir avoir peur. Face aux actes de rébellion, le gouvernement a fait du Kurdistan une zone surmilitarisée. Cette stratégie a été renforcée suite à la reprise de la guérilla. Cette situation touche bien sûr les Peshmerga, mais aussi toute la population. Aujourd'hui encore, un berger est mort en sautant sur une mine disposée aux abords de son village. Le commandant des Pasdaran de la ville kurde de Sna, aussi appelé Samandaj en perse, ont annoncé un nouveau plan d'action pour le Kurdistan. Les Pasdaran, ou gardiens de la révolution, sont les forces d'élite du gouvernement iranien. Milices paramilitaires officielles, ils déploient aussi leurs forces dans toutes les sphères économiques et sociales. Les populations des différentes régions kurdes d'Iran souffrent de l'un des plus hauts taux de chômage du pays, situation principalement due à des politiques de sous-développement programmé. Le plan de lutte contre le chômage annoncé comprend notamment de nouveaux projets sociaux et de reconstruction et sont mis en place par les Pasdaran qui ont aussi mis en place une campagne de recrutement. Pour résumer la situation, pour lutter contre le chômage, le gouvernement propose à la population kurde d'intégrer les forces mêmes qui mènent la répression et les assassinats contre eux.
Au Bakour, Kurdistan du Nord, la répression politique menée par l'État turc ne cesse de s'intensifier. De nouveaux couvre-feux ont été imposés par les autorités turques à Nusaybin dans deux villages, à Akarsu et à Yavrukoy. Le gouverneur du district a déclaré que ces couvre-feux étaient imposés dans le cadre d'une nouvelle opération militaire. À Izmir, le bureau du HDP, Parti démocratique des peuples, a subi une attaque menée par un groupe fasciste turc. Celui-ci, tout en chantant des chants racistes, a lancé pavés et bouteilles sur le local et hissé le drapeau turc. Le HDP a publié un rapport dans lequel un bilan des dégâts réalisés à Gever par l'État turc est dressé. Il fait état d'une douzaine de morts et de centaines de maisons détruites. La répression politique menée par l'État turc à l'encontre du mouvement kurde de Turquie dépasse les frontières. Maxime Azadeh, nouveau directeur de l'agence de presse ANF, a été arrêté à Bruxelles, en Belgique, par l'Organisation internationale de police criminelle, Interpol. Cette organisation a été créée en 1923. Elle est basée à Lyon et à Paris, dans l'objectif de développer la coopération policière internationale et a pour objectif d'arrêter principalement les personnes qualifiées de criminelles et de diffuser les informations dans près de 190 pays. Ömer Güney, l'auteur de l'assassinat des trois militantes kurdes en 2013 à Paris, est décédé avant son procès. La France a fait retarder le processus alors que les autorités avaient pleinement conscience de son état de santé et de l'urgence de son jugement. Des réponses à la répression se font entendre. L'Assemblée des femmes du DBP, Parti de la démocratie et de la paix, a déclaré lors d'une réunion à Hamet, le 18 décembre 2016, que toutes les organisations devaient accélérer leurs efforts dans la lutte contre le sexisme et les violences, à l'encontre des personnes assignées femmes, le harcèlement et la précarisation. Elle demande également l'arrêt immédiat de l'isolement d'Abdullah Öcalan. Les Faucons de la Liberté du Kurdistan, le TAK, a revendiqué les deux attaques qui ont eu lieu à Istanbul et à Kayseri, les 10 et 17 décembre 2016. Ces attaques, qui ont tué près d'une douzaine de personnes et fait beaucoup de blessés, ont été réalisées contre les génocides politiques et la guerre menée par l'État turc. Le TAK est une organisation politique recourant à la lutte armée pour obtenir les droits linguistiques et culturels des Kurdes depuis 2004. Compte tenu du contexte de répression intense et qui ne cesse d'augmenter de tous les côtés, nous tenions à rappeler que ces brèves ne sont possibles que grâce aux journalistes kurdes et aux contacts qui, sur place, continuent de lutter pour la liberté d'expression et la pensée, malgré la guerre et les menaces de mort. Nous tenions à les remercier et à leur rendre hommage, de quelque côté de la frontière qu'ils soient.
Et voilà, ça c'était pour les brèves du Kurdistan. On peut filer sur l'agenda alors que tout le monde m'a abandonné. Je suis tout seul dans le studio, finalement on était deux, donc ça ne change pas grand chose. Mais quand même, je tiens à faire un agenda en une minute. Ça tombe bien, j'ai une minute. Parce que qu'est-ce qu'il y a à faire la semaine prochaine? Bah, pas grand chose, à part lundi soir, la permanence juridique de soutien aux sans-papiers et sans-papières qui se trouve à La Lutine, 91 rue Montesquieu. Et jeudi soir, l'émission Mégaphone sur Radio Canu, bien entendu, l'émission pour envoyer des messages aux prisonniers et aux prisonnières. Donc voilà, c'était le Canu Info du vendredi soir. Tout de suite après, c'est Noise Pollution. Et d'ici là, n'oubliez pas, paniquez pas, niquez tout. Tout seul, c'est quand même un peu moins classe.